Un schéma de l'histoire de l'Ancien Testament. Introduction. Par B.S. Dean. Texte légèrement condensé. Et pourquoi étudier l'histoire de la Bible? La question est valable. On s'attend à ce que l'évangéliste étudie la Bible, puisqu'il doit la connaître lui-même et l'enseigner à d'autres. Mais tous les chrétiens devraient lire leur Bible afin d'être édifiés personnellement. 1. Parce que la Bible est si mal connue, les hommes lisent des écrits concernant la Bible plus qu'ils ne lisent la Bible elle-même. Ils la lisent mais ne l'étudient pas. Leur connaissance de la Bible est donc superficielle et partielle. Ils ne saisissent donc forcément pas le fil conducteur. Les étudiants dans les universités apprennent à tracer l'histoire de l'Égypte et de la Perse, de la Grèce et de Rome. Mais combien d'entre eux pourraient raconter fidèlement les histoires d'Abraham, de Moïse, ou de David? Combien pourraient donner dans l'ordre une douzaine d'événements de la vie de Jésus ou de Paul? 2. Parce que le plan de la Bible est un plan historique, ce plan n'est ni systématique ni scientifique. Puisque dans ces pages l'histoire de la rédemption se déroule dans un contexte historique, c'est sur un plan historique qu'il faut l'étudier. C'est vrai qu'on peut tirer du bien d'un verset, d'un fait, d'un personnage de la Bible, séparé de son contexte historique. Mais combien plus grand sera ce bien quand nous voyons ces choses dans leurs circonstances propres? Imaginez une œuvre d'art coupée en morceaux et présentée pour notre admiration, ici un arbuste, là un roc, sur un autre fragment une tache de ciel bleu ou un lac placide qui en est le miroir. Chaque détail possède, sans aucun doute, son propre mérite, mais on ne contemple pas ainsi les sublimes créations de l'art. De même, ce n'est pas ainsi que l'on devrait examiner les révélations de l'Esprit de Dieu, bien plus sublimes encore. La Grande Charte, les thèses de Luther, le caractère de Charlemagne, sont en eux-mêmes dignes d'une étude approfondie. Vu de la perspective de l'histoire, ils sont d'un intérêt inégalable. De même, si vous voulez connaître Abraham, ou Moïse, ou David, ou Paul, si vous voulez comprendre l'alliance abrahamique, ou les événements du Sinaï et de Golgotha, ou le sermon de la Pentecôte, vous devez les connaître comme des parties d'une œuvre entière. La Bible s'étudie d'un point de vue historique. 3. Afin de comprendre son unité, la Bible n'est pas un seul livre mais beaucoup de livres. Ces 40 auteurs étaient séparés par de grandes distances géographiques et chronologiques. Ils provenaient de toutes les couches de la société, des bergers et des pêcheurs jusqu'aux poètes à la cour et aux grands érudits. Quant au type de littérature concernée, l'éventail est tout aussi varié, histoire, loi, poésie, épique et lyrique, proverbe, prophétie, parabole, discours, épître, sermon. Tous ces genres trouvent leur place dans ces merveilleuses pages. En plus, ces 40 auteurs ont travaillé le plus souvent en ignorant complètement le travail des autres. Et pourtant, la Bible est en effet un seul livre. Ces 40 auteurs écrivaient avec une unité d'esprit réelle bien qu'inconscient. À travers les 66 livres court le fil conducteur ininterrompu du but divin, le fil écarlate de la rédemption de l'humanité, faisant de tout un seul livre. Peu à peu, ère après ère, le but du livre se dévoile, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, Marc 4.28. Christ est le centre du message de la Bible. Vers lui convergent les lignes, en avant depuis le paradis perdu, en arrière depuis le paradis regagné. Christ est la clé, sans lui, tout sombre dans le chaos, avec lui, tout est cosmos, beauté, ordre, unité. 4. Parce que c'est un livre de l'histoire humaine, personne ne peut se dire cultivé s'il ignore l'histoire de son propre peuple. Les leçons les plus éloquentes de l'héroïsme ou de la folie humaine, les richesses de la littérature, tout est couché dans l'histoire des hommes. La Bible retrace avec une plénitude remarquable les origines et les péripéties d'une des races les plus éminentes, celle des Hébreux. Le fil de leur histoire est tissé dans celle de toutes les grandes nations de l'Antiquité. Ainsi la Chaldée, l'Égypte, la Syrie, la Babylonie, la Perse, la Macédoine et Rome, sont toutes concernées, chacune à son tour. 5. Afin de préserver sa foi en la Bible, devenus adultes, nous mettons derrière nous mille choses de l'enfance. Revenus à la maison de notre enfance, nous constatons un changement saisissant. La vieille maison elle-même et tout ce qui l'entoure, les champs où nous avons joué ou travaillé, les pentes où nous avons glissé, le ruisseau où nous nous sommes baignés, où nous nous avons pêché, où nous nous avons patiné, tout s'est rétréci, tout est plus petit. Notre vie intérieure et extérieure s'est élargie. Nous risquons de nous débarrasser, non seulement des petits fantasmes de notre enfance, mais également de notre foi en Dieu, de notre amour pour la Bible de nos parents. En fait, le danger est d'ignorer la Bible, et le remède est de la comprendre mieux et plus profondément. 2. L'objectif de l'histoire biblique. Le but premier de l'histoire biblique est un but religieux. La religion est importante pour toute histoire humaine, car elle est entrelacée d'histoire de l'art, de la poésie, des lois, des coutumes, de la vie des familles et même des grandes guerres. Cela dit, elle y tient, en règle générale, une place secondaire. Ce qui tient la première place, ce sont la vie politique et intellectuelle, la construction des grands empires ou des splendides monuments de l'architecture, la création des chefs-d'œuvre de l'art, de la loi ou de la littérature. Dans l'histoire biblique par contre, le but religieux est dominant. Bien que, du début à la fin de ce merveilleux récit, le peuple de Dieu entre en contact avec toutes les grandes nations de l'Antiquité dont nous apprenons les étapes vers la gloire et les raisons de leur chute, dans la Bible cette histoire générale reste secondaire. Le premier but de la Bible est de tracer l'origine et le développement de la vraie religion dans ses trois grandes étapes, patriarcale, juive et chrétienne. Même ceux qui ne croient pas en une religion historique ne peuvent pas se permettre de rester dans l'ignorance intellectuelle de ces thèses. Les périodes de l'histoire biblique. La Bible est divisée en trois périodes ou dispensations, selon trois événements capitaux. 1. La loi donnée sur le mont Sinaï. 2. La venue de l'Esprit de Dieu au jour de la Pentecôte. 3. La mort du dernier apôtre. On peut définir ainsi ces trois périodes. 1. L'ère patriarcale, environ 4004, 1491 avant J.-C. Depuis la création, jusqu'à la loi. Note. La chronologie des premiers temps bibliques est très incertaine. À défaut d'un système reconnu, nous utilisons celui du Chez. 2. L'ère mosaïque, environ 1491 avant J.-C. moins 30 après J.-C. Point. Depuis la loi jusqu'à la venue de l'Esprit Saint. 3. L'ère chrétienne, environ 30 après J.-C. jusqu'à une date inconnue. Depuis la venue de l'Esprit Saint jusqu'à la deuxième venue du Christ. La caractéristique de la première ère est l'importance de la famille, révélation faite à la famille, religion de la famille, gouvernement par la famille. La caractéristique de la deuxième ère est l'importance de la nation, religion nationale, alliance nationale. La caractéristique de la troisième est l'importance de la race, religion et message universel. Dans la première ère, Dieu parlait aux familles par les patriarches, dans la deuxième, il parlait à la nation par Moïse, dans la troisième, il parle au monde entier par son Fils. IV. Période de l'histoire de l'Ancien Testament. Afin de maintenir une perspective correcte sur les événements de l'histoire, il faut fixer solidement les dates de quelques-uns de ces événements charnières. Passez une heure à apprendre les divisions historiques suivantes, en prenant l'habitude de toujours mettre chaque événement dans la période appropriée, vous sera toujours d'une grande utilité. 1. La période antédiluvienne, environ 4004, 2348 avant J.-C. Depuis la création jusqu'au déluge. 2. La période post-diluvienne, environ 2348, 1921 avant J.-C. Depuis le déluge jusqu'à l'appel d'Abraham. 3. La période des patriarches, environ 1921, 1706 avenue J.-C. Depuis l'appel d'Abraham jusqu'à l'entrée en Égypte. 4. La période d'esclavage, environ 1706, 1491 avant J.-C. Depuis l'entrée en Égypte jusqu'à l'Exode. 5. Le séjour dans le désert, environ 1491, 1451 avant J.-C. Depuis l'Exode jusqu'à la traversée du Jourdain. 6. La conquête de Canaan, environ 1451, 1400 avant J.-C. Depuis la traversée du Jourdain jusqu'à la mort de Josué. 7. Les juges, environ 1400, 1095 avant J.-C. Depuis la mort de Josué jusqu'à l'onction de Saul. 8. Le Royaume-Uni, environ 1095 à 975 avant J.-C. Depuis l'onction de Saul jusqu'à l'avènement de Jéroboam. 9. Le royaume divisé, environ 975 à 722 avant J.-C. Depuis l'avènement de Jéroboam jusqu'à la chute de la Samarie. 10. Le royaume du Sud, environ 722 à 586 avant J.-C. Depuis la chute de la Samarie jusqu'à la chute de Jérusalem. 11. L'exil, environ 586 à 536 avant J.-C. Depuis la chute de Jérusalem jusqu'au retour sous Zorobabel. 12. La période post-exilienne, environ 536 à 400 avant J.-C. Du retour sous Zorobabel jusqu'à la clôture du canon de l'Ancien Testament.